Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur vaincre l'incrédulité dans Matthieu chapitre 13 verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Incrédulité. Nous connaissons tous des personnes qui sont incrédules, soit dans notre entourage, ça peut être peut-être votre conjoint ou un enfant de votre famille qui ne croit pas, qui est réfractaire, incrédule. Et si on fait rapidement le point sur nos connaissances, on remarquera qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne croient pas que de gens qui croient. Et finalement, les véritables croyants, c'est ce que nous devons rechercher, ce sont ceux qui aiment le Seigneur, qui ont la foi et qui marchent dans les voies de Dieu. Mais certains croyants ont été gagnés eux-mêmes par l'incrédulité, petit à petit. Au début, ils étaient vraiment dans la foi, et le temps passant, les épreuves de la vie venant, ils ont diminué, ils se sont éloignés du Seigneur et ils sont devenus tièdes, voire incrédules, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à croire que Dieu peut faire encore de grandes choses. Ce sont des croyants qui se sont spécialisés dans l'incrédulité. Par exemple, ils peuvent vous dire, mais ce n'est pas possible parce que voilà, Dieu n'agit plus aujourd'hui. Dieu n'agit plus de la même manière. Peut-être autrefois il faisait des miracles, mais aujourd'hui il ne le fait plus. Et ils vont vous donner toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. C'est le premier incrédule parmi tous, c'est Thomas. On le trouve le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Comme il n'était pas là avec les autres, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Et alors lui, il va confesser son incrédulité. Il le dit de toute sa force. Il dit « Si je ne vois pas les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté de Jésus, donc je ne croirai pas. » Voilà sa confession d'incrédulité. Ce n'est pas une confession de foi, c'est une confession d'incrédulité. Il dit pas « je croirai », il dit « je ne croirai pas ». Et déjà, quand vous êtes dans l'incrédulité, vous confessez donc que ce n'est pas possible, que même si les autres le disent, ça n'y arrivera pas pour moi, eh bien vous êtes en train de confesser votre incrédulité. Comme Thomas, vous dites « je ne croirai point ». Et remarquez que Thomas pose deux conditions à Dieu. Il pose des conditions à Dieu, c'est déjà un premier problème, premièrement, parce qu'on n'a pas à dire à Dieu « fais ceci, fais cela, fais ceci, et moi je te dirai si je crois ou pas ». Et puis, deuxième chose qu'on remarque chez lui, c'est qu'il confesse à haute voix sa propre incrédulité. Et donc, attention à nos paroles, frères et sœurs, parce que par nos paroles, nous serons aussi jugés. Donc attention aux paroles à tort et à travers. Là, il a parlé à tort et à travers. Il aurait dû prier, il aurait dû chercher la face de Dieu. Il aurait dû laisser le Saint-Esprit le conduire. Il n'aurait certainement pas abouti à cette conclusion « je ne croirai pas ». Mais si vous avez le choix, eh bien, écoutez plutôt les personnes qui sont dans la foi que les personnes comme Thomas à cette période de sa vie, parce qu'après, il a changé. Après, il est devenu vraiment un croyant. D'ailleurs, Jésus lui a dit « Ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois ». Il est devenu un véritable croyant, bien sûr. Donc, à un moment donné de sa vie, il a vacillé. Mais vous avez toujours le choix d'écouter des personnes comme Thomas qui vous disent « Ben voilà, c'est vrai, Dieu a agi hier, mais je vois bien qu'aujourd'hui, Dieu n'agit plus. Donc, le Seigneur m'a abandonné. Ça ne marchera pas pour moi. » Donc, ça, c'est les personnes comme Thomas. Ils disent « Je ne croirai pas, je ne croirai pas. » Ou soit, vous avez la possibilité d'écouter la parole de Dieu, d'écouter des croyants qui sont dans la foi et qui se tiennent dans la prière. Donc ça, c'est une position à prendre. Je reviens à notre texte. Nous avons ici Jésus qui allait dans les synagogues prêcher la parole de Dieu. Les gens étaient surpris par le message qu'il apportait. Il n'était pas comme les scribes et les pharisiens qui étaient habitués à la tradition religieuse. Il prêchait la vraie parole de Dieu. Et le problème, c'est que comme c'était dans la ville de Nazareth, Nazareth, donc c'est là où Jésus a vécu, il n'est pas né à Nazareth, vous le savez, il est né à Bethléem, il est passé par l'Égypte et ensuite il est revenu à Nazareth. Et là, il s'est installé à Nazareth, mais il a surtout grandi à Nazareth et il a travaillé à Nazareth. Il avait d'abord un métier, celui de charpentier. Donc, les gens le connaissaient comme le charpentier. Et donc, quand il vient maintenant et qu'il prêche la parole de Dieu et qu'il accomplit des miracles, les gens ne comprennent pas comment un charpentier, qu'on a vu grandir, il était petit, adolescent, jeune, adulte, il travaillait, comment a-t-il pu avoir toute cette sagesse? Et finalement, le fait de l'avoir connu petit, de l'avoir vu grandir, ben, ça crée en eux un doute, une suspicion, ils n'arrivaient pas à croire. Alors, ils avaient une connaissance superficielle néanmoins de Jésus. C'est vrai qu'il le connaissait de l'extérieur, il connaissait sa famille, il connaissait son activité, il était charpentier, il connaissait sous un certain angle, mais il ne le connaissait pas en réalité, dans la foi. Ce n'est pas la connaissance de Jésus qui sauve. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus de nom. Il y a même des livres entiers qui sont écrits sur Jésus de Nazareth. Tous les ans, toutes les bibliothèques, il y a des nouveaux livres sur Jésus. Mais ce n'est pas la connaissance de tout ce qu'on peut apprendre sur Jésus qui va sauver, c'est la foi en ce Jésus qui est vivant et qui est ressuscité. Vous voyez, c'est une autre expérience. Ce n'est pas simplement de connaître. Ici, il connaissait, et c'était déjà bien d'avoir accès à la connaissance que Jésus existe, mais il n'avait pas la foi, il n'avait pas l'assurance que ce Jésus-là, c'est vraiment le Sauveur. Ainsi, on peut arriver à ce paradoxe, c'est que vous pouvez connaître des choses sur Jésus. Il est né à Bethléem, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il est mort sur une croix, il est ressuscité au ciel. Vous savez des choses sur Jésus, c'est tout à fait possible, sans avoir de relation personnelle avec lui. Et là, on n'est pas dans la foi, donc on est dans la religiosité. Jésus, d'ailleurs, explique bien ce phénomène pour vous montrer que c'est important, la foi simple. Il dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Qui sont les sages et les intelligents? Ce sont les gens les plus éduqués, ce sont les gens qui ont le plus étudié, qui connaissent le plus de choses. Donc, c'est par la connaissance qu'ils approchent les choses. Mais Jésus dit, « Tu as caché ces choses aux sages. » On peut penser aux philosophes, on peut penser aux écrivains, on peut penser à ceux qui sont connus dans le monde de la littérature. Ils sont sages, ils sont intelligents aux yeux de ce monde. Mais tu as caché ces choses. Qu'est-ce qu'il aurait caché finalement? Les réalités spirituelles de la parole de Dieu. Mais Jésus dit, tu les as révélées aux enfants. Mais quelle est la caractéristique d'un enfant par rapport aux sages et aux intelligents qui ont la grande connaissance? Ben, l'enfant, sa caractéristique, c'est qu'il va croire ses parents, tout simplement. Il va croire ses parents. L'enfant, vous lui dites, voilà, on va aller au magasin, on va t'acheter un jouet, ben, il vous suit, il croit ses parents, il les suit, il leur fait confiance. Et pourtant, ses parents pourraient se tromper, pourraient s'égarer, il les suivrait parce qu'il fait confiance. Et donc, qu'est-ce que veut nous enseigner Jésus? Il dit, c'est pas dans la connaissance des sages et des intelligents qu'il nous faut aller, mais c'est dans la foi simple, comme des enfants qui croient leurs parents. C'est là que vous allez rentrer en communion avec Dieu et vivre des expériences. Donc on voit que dans ce texte, leur connaissance était superficielle, était intellectuelle, mais ils n'avaient pas cette foi simple comme les enfants pour croire en Jésus. Et effectivement, ben, ils sont passés à côté de bénédictions parce que l'incrédulité produit est néfaste, elle produit des mauvaises choses. Et l'incrédulité, c'est même une puissance négative. C'est une puissance négative qui anéantit les bénédictions. D'ailleurs, le texte dit, il n'y a pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de miracles? Jésus est là, Jésus est tout puissant, il fait ce qu'il veut quand il veut, mais à cause de leur incrédulité, il y a eu un frein, il y a eu comme un blocage. Ils se sont eux-mêmes bloqués, en fait. Ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas ou ne pouvait pas les guérir, mais c'est que eux, par leur incrédulité, ils se sont bloqués eux-mêmes les bénédictions en se fermant aux choses de Dieu. Alors c'est pourquoi c'est important de vous entourer de personnes qui ont la foi et de prier avec des personnes qui croient vraiment dans le miracle, pas des personnes incrédules. Je prends l'exemple de Jésus qui a été interpellé par un centenier dont la fille était sur le point de mourir. Et entre-temps, il a été arrêté dans sa course par une femme qui avait la perte de sang et il était trop tard au point de vue humain puisque la fille est morte entre-temps. Mais quand Jésus arrive, il y a un petit détail qui est précisé, la foule bruyante pleurait puisque la fille était morte. Mais pas pour Jésus, pas pour Jésus. Quand il arrive, Jésus qui est dans la foi, il dit « Mais pourquoi pleurez-vous » C'était un peu logique qu'il pleure, l'enfant est mort. Voyez. Mais Jésus dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » On voit que Jésus est sur un autre paramètre. Il n'est pas sur le paramètre du plan physique qui est la réalité, parce qu'on aurait pu lui dire « Mais si Jésus, elle est vraiment morte. » Mais sur le plan de la foi dans lequel il est, il dit « Mais pourquoi pleurez-vous ? Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Vous voyez, c'est contradictoire parce qu'elle était morte, on pourrait dire sur un certain plan, oui, mais sur un autre plan, elle n'était pas morte parce qu'il y a un autre plan, c'est le plan de la foi, et Jésus va se tenir là-dedans. Sauf que quand Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle dort », les gens sont dans l'incrédulité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se moquer de lui. Et quand on est incrédule, ben, on rejette la foi, on rejette cette position qui est surnaturelle. Et comme il se moque de lui, Jésus ne voulait pas refaire la même expérience qu'ici. Il a fait sortir tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire qu'il a fait sortir l'incrédulité de la maison. Et il a laissé avec lui juste le père, la mère et trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est ainsi qu'ils ont prié pour la résurrection de l'enfant. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ? Chasser l'incrédulité et nous entourer de personnes qui sont dans la foi et de prier pour le miracle. Et Jésus a vu donc le miracle se réaliser, la fille est ressuscitée d'entre les morts. Tout cela est bien expliqué dans la parole de Dieu, que l'incrédulité c'est néfaste et qu'il faut la mettre dehors. Un premier point que je voulais voir, c'est d'abord qu'est-ce que l'incrédulité ? Qu'est-ce que l'incrédulité ? Tout simplement, l'incrédulité, ça consiste à ne pas faire confiance à la parole de Dieu, à ne pas faire confiance à Dieu, à croire davantage, nous, ce que nos yeux nous montrent ou ce que l'on comprend, que ce que Dieu dit. Ça, c'est déjà de l'incrédulité. Il y a un paradoxe, d'ailleurs, c'est qu'on peut être croyant, même chrétien, et ne pas avoir la foi. C'est-à-dire, on est croyant dans le sens général, mais on est incrédule dans le sens particulier de est-ce que Dieu peut le faire ? Est-ce que Dieu va le faire ? On n'arrive pas à le croire. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples « Ayez foi en Dieu ». Mais littéralement, vous trouverez ça dans Marc 11, 22, si vous regardez le grec, c'est marqué « Ayez la foi de Dieu », la foi que Dieu vous communique, cette foi surnaturelle qui fait déplacer les montagnes. Si on est croyant, mais juste croyant sans vraiment passer au mode de la foi, ben on va rester incrédule, on va rester dans le doute. Donc l'incrédulité, c'est aussi une décision. On peut décider de croire ou de ne pas croire. C'est un choix. Alors je choisis de croire ou je choisis de ne pas croire. Quand rien ne va plus, quand il semble qu'on a tout perdu, on a encore le choix. Je prends l'exemple de l'histoire de Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus arrive sur place. Marthe dit à Jésus, « Mais Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est là que Jésus lui dit, « Mais ne t'ai-je pas dit que si, et retenez le petit mot « si », qui est une condition. Jésus lui dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et le « si » nous montre que c'est « si tu crois, mais si tu ne crois pas, il y aura d'autres conséquences. » Mais si tu crois, en tout cas, voilà, le miracle est possible. Et donc, je m'attarde un petit peu sur le mot « si » parce que « si », ça nous parle d'un choix. Ça veut dire que Marthe, elle a le choix. Si tu crois, il y aura une conséquence, mais si tu ne crois pas, il y aura une autre conséquence. C'est étonnant parce que Jésus ne lui parle pas du tout de la difficulté de la réalité présente. On dirait que Jésus est sur un autre monde. Parce que Lazare est mort, Jésus ne parle pas de la mort parce que pour Jésus comme pour la petite fille, Lazare n'est pas mort, mais il dort, il sommeille. Lorsque, d'ailleurs, Jésus parlait de la mort de Lazare aux disciples, ils ne comprenaient pas que Lazare était mort parce que Jésus disait « Lazare dort, je vais le réveiller ». Et pour les disciples, il dort, bah, ça veut dire qu'il est dans le sommeil. Mais quand Jésus dit « il dort », en fait, il disait déjà qu'il était mort. Et il laisse à Marthe une parole d'espoir en disant « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, vous voyez, il y a toujours un espoir, même si tout est perdu. Là, c'était mort, ça veut dire que quand c'est mort, on pourrait dire, au point de vue humain, il n'y a plus d'espoir, de possibilité, c'est fini, on ne reviendra plus en arrière, la personne ne pourra plus parler, s'exprimer, c'est terminé. Mais Jésus, dans ce cadre-là, quand il n'y a plus d'espoir, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc on dépasse le cadre humain de l'espérance pour arriver dans le cadre divin du « tout est possible à celui qui croit ». On a le choix. On a le choix de croire la parole de Dieu ou de croire les paroles du malin. C'est un choix. On pourrait dire qu'à ce moment-là, Marthe, elle écoute Jésus, mais peut-être l'ennemi pourrait lui dire « Mais Marthe, tu ne vas pas croire que c'est possible. » Donc, commencez à faire douter. D'ailleurs, ces paroles, c'est « Seigneur, il y a 4 jours, il y a 4 jours qu'il est là, tu comprends, c'est pas possible. » On comprend bien que le processus de décomposition a fait son chemin, là, voilà, il n'y a pas de retour en arrière, vous voyez. Et l'ennemi pourrait l'encourager dans ce domaine de l'incrédulité. Le diable vous fera toujours douter et vous donnera même des arguments. Ici, c'est des arguments factuels. Voilà, il y a 4 jours, c'est fini, on ne peut rien faire. On va s'appuyer là-dessus. C'est l'ennemi qui vous dit, bah, ouais, tu vois, ton enfant, il s'est éloigné du Seigneur, il ne se convertira jamais. Voyez, il est en train de semer de l'incrédulité. Où il vous dit, bah, voilà, tu es malade, tu sais bien, tu as un cancer. Tu vois que les médecins ils t'ont dit que c'est fini, tu vois bien que c'est fini pour toi. Il vous communique cette incrédulité. Ou alors tu as essayé, tu as cherché du travail, mais toutes les portes sont fermées, il n'y a pas de porte pour toi, ce n'est pas la peine. Ou tu seras toujours seul, personne ne t'aime, ce n'est pas la peine, etc. Et donc toutes ces paroles-là, elles viennent s'accumuler. Et si notre cœur est déjà un peu fragile par le manque de foi, donc l'incrédulité fait son chemin, et nous-mêmes, nous commençons à prononcer des paroles d'incrédulité. On commence à parler selon l'incrédulité. Et le diable, lui, parle beaucoup. Il parle beaucoup, tous les jours. Il est en train de parler, il est en train de semer des malédictions, en fait. Et ça, on ne peut pas l'en empêcher. Mais par contre, on peut fermer nos oreilles aux paroles du malin et laisser notre cœur être rempli de la parole de Dieu. C'est ça qui va nourrir notre cœur. Et une fois que vous avez la parole de Dieu en vous, vous la proclamez dans la foi, ben c'est une puissance face à l'adversaire. C'est extrêmement puissant. D'ailleurs, il y a une seule arme offensive dans... Ah, on va faire une petite révision sur l'armure du chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'armure du chrétien ? On commence par en haut. Le casque du salut. Ensuite, la cuirasse de la justice. Ensuite, l'épée de l'esprit, c'est la seule arme offensive. Ensuite, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité et les chaussures du zèle de l'Évangile. Vous voyez, on a toutes les armes là. Alors, il faut les avoir sur soi. Mais remarquez que toutes les armes sont pour nous protéger, sauf l'épée qui est pour combattre. Et l'épée, c'est la parole de Dieu, c'est quand vous citez la parole de Dieu dans la foi. Donc l'incrédulité n'est pas une question d'âge ou d'année d'expérience, parce que même quelqu'un de très jeune peut être incrédule, mais aussi quelqu'un de beaucoup plus âgé. Ça touche toutes les époques de la vie, ça veut dire que personne n'est à l'abri. On peut même avoir eu, et c'est ça qui est paradoxal, un temps de grande bénédiction et de grande victoire avec le Seigneur, et puis tomber dans l'incrédulité quelque temps après. Donc si on ne veille pas, en fait, lui, l'ennemi, il est en train de semer son incrédulité. Deuxième point, comment l'incrédulité entre-t-elle dans un cœur ? Ben voilà, l'incrédulité, elle rentre tout simplement parce que c'est une semence du malin. Lui, c'est un semeur. Le diable, lui, c'est un semeur et il va semer l'incrédulité. Dans la parabole du semeur, il y a Jésus qui explique qu'il y a une partie qui va tomber le long du chemin. Et il dit « le diable a peur de quelque chose ici ». Luc 8, 12. « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. » Ceux qui entendent donc la parole. Puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le diable vient et enlève de leur cœur la parole et regardez la peur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ah, ça c'est une défaite pour l'adversaire. Quand ces gens qui reçoivent la parole commencent à croire que ce que Dieu dit c'est la vérité, eh bien ces personnes-là commencent à être changées, touchées par la parole de Dieu, ils peuvent se repentir, se convertir, bref, c'est comme si le diable perd le contrôle sur leur vie. Et donc, une précision, si on lit Marc 4, 15, il dit « aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée. » Pourquoi ce petit mot « aussitôt » ? Parce que le diable sait qu'il a peu de temps pour réagir quand la parole est semée. Il faut qu'aussitôt, il réagisse. Sinon, il a peur que la personne ne croit et ne soit sauvée. Donc, on sait bien que la parole de Dieu, quand vous la recevez dans la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça va produire la foi. Un chrétien qui est rempli de foi, d'ailleurs, va pouvoir résister au diable. D'ailleurs, il y a une petite précision que nous devons lui résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Donc, si nous n'avons pas cette foi-là, nous ne pourrons pas résister au diable. Tandis que si c'est l'incrédulité, un petit peu comme... par exemple, Pierre, qui a été incrédule aussi, à un moment donné, quand Jésus annonçait sa crucifixion, il ne croyait pas, il dit « cela ne t'arrivera jamais, ne croyez pas ». Mais cette incrédulité a été une porte pour l'adversaire, pour l'utiliser. Et à ce moment-là, Jésus a dit « arrière de moi, Satan ». Il voyait bien l'action du diable. Le diable, lui, vit dans l'urgence à chaque fois que la parole est semée. Donc, aussitôt, il vient et il enlève, et il veut enlever tout ce qui a été semé, et au contraire, il va y mettre autre chose. Il va y mettre l'incrédulité, c'est cette semence-là. Et il combat les croyants afin qu'ils abandonnent la foi. C'est pour ça que Jésus dit que ceux qui tombent parmi les épines, ils croient pour un temps. Ça veut dire que leur foi n'étant pas enracinée dans les choses de Dieu, ils vont abandonner le Seigneur. Ils ont cru pour un temps, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est Jésus lui-même qui dit que l'ennemi, c'est un semeur. Quand il prend la parabole de l'ivraie, il dit, voilà, pendant la nuit, il y a un semeur qui vient semer de l'ivraie. Mais où est-ce que l'ennemi va semer de l'ivraie ? Il va semer à un endroit précis. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans la parabole. Il va pas semer dans n'importe quel champ. Il va semer dans le champ de Dieu, là où il y a le bon grain. Il va semer là où il y a le bon grain. Et c'est là, quand... les gens sont dans le sommeil pendant la nuit, ils espèrent que sa semence va produire du fruit dans le champ de Dieu, là où le bon grain a été semé. Le diable espère toujours que certains abandonneront la foi, c'est pourquoi veillez sur votre cœur pour ne pas laisser la moindre racine d'amertume ou d'incrédulité. Troisième point, quelles sont les conséquences de l'incrédulité ? Première conséquence, ça sera une vie d'errance. Nombre chapitre 14, verset 22, c'est une histoire du peuple avant d'entrer en Canaan. Ils ont donc refusé d'entrer dans le pays promis. Tous ceux qui ont vu ma gloire, c'est Dieu qui parle, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ah, l'incrédulité, c'est tellement contagieux. C'est pire que la Covid-19, l'incrédulité. C'est contagieux. 10 personnes étaient contagiées. 10 personnes avaient le virus de l'incrédulité. C'était les 10 espions. Eh bien, figurez-vous que ça a contaminé 3 millions de personnes. 3 millions qui sont devenus incrédules. C'est-à-dire tout le peuple, à cause de ces 10-là, ils ont été incrédules. Mais c'est pareil dans l'Église. Si on a un noyau d'incrédules, ils peuvent contaminer même toute une église. C'est quelque chose de catastrophique. Donc l'incrédulité fait reculer devant les défis. L'incrédulité nous fait tourner en rond. L'incrédulité changera votre vision des choses. À ce moment-là, les espions reviennent et ils disent au peuple, mais voyez, nous, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Ça veut dire que nous, on est des minables et eux, ce sont des géants. Voilà comment ils se voient, alors qu'eux, ils sont enfants de Dieu. Donc ça veut dire que l'incrédulité leur fait changer leur vision des choses. Ils voient l'ennemi tellement plus puissant que eux. Ils voient les difficultés tellement grandes. Ils disent, on n'y arrivera jamais. Mais s'ils étaient dans la foi, ils verraient les choses à l'endroit. Et ils verraient que Dieu est tout puissant et que c'est possible. Mais l'incrédulité leur a fait oublier les promesses de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a punis et leur a dit, puisque vous avez été incrédules, eh bien, vous serez 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. Alors qu'ils auraient pu rentrer là tout de suite, non, leur incrédulité leur a fermé les portes de Canaan et ils ont erré dans le désert 40 ans. Deuxième conséquence de l'incrédulité, c'est la domination des ennemis. 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, donc c'est David qui parlait avec ses frères, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Si Satan a réussi à susciter l'incrédulité dans les cœurs, en fait, ça va produire le découragement. C'est-à-dire le peuple, l'armée, était découragée à cause de ce Philistin, à cause de ce géant. Ils étaient paralysés. Alors vous serez paralysés, vous serez dans la crainte et vous direz, on ne peut pas combattre. Or, David, lui, il vient avec la foi. Donc, il n'est pas du tout dans l'état d'esprit du peuple et il entend les mêmes paroles que l'armée. Et pourtant, il n'est pas découragé par ces paroles. Et quand il dit, mais qui ira se battre avec lui? Moi, j'irai me battre avec lui. Son frère lui dit, toi, tu es orgueilleux, tu viens observer la bataille, tu viens dire que tu vas battre le Philistin, mais d'abord, ce n'est pas possible. Le roi lui dit, mais tu ne peux pas. Donc, un seul qui a la foi, c'est David, va renverser la tendance de l'incrédulité, parce qu'elle était dominante. C'est-à-dire que David n'a pas laissé, en fait, le contexte gagner son cœur. Il s'est protégé, il s'est tenu dans la prière, il n'a même pas accepté les armes que Saül voulait lui mettre. Il a rejeté toute aide humaine, il s'est tenu dans la foi. Goliath était toujours là, Goliath avait toujours les mêmes paroles. David aurait pu se laisser fléchir. Non, il a fait le choix de croire davantage les promesses de Dieu que les paroles de ce géant. Et c'est ça l'incrédulité, c'est quand vous croyez davantage les paroles du géant que les paroles de Dieu. C'est ce qui est arrivé au peuple. David, lui, a choisi l'inverse. Et votre difficulté sera peut-être toujours là, parce que Goliath est toujours là, mais vous pouvez choisir, comme David, d'écouter la parole de Dieu et les promesses rassurantes du Seigneur dans votre vie et les croire plutôt que d'écouter les paroles du malin. Troisième conséquence, c'est la mort. Dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 et 2, les conséquences de l'incrédulité, c'est la mort. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Et quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà le serviteur du roi qui était incrédule, qui disait, mais ça c'est une belle promesse que Élisée donne, mais comment c'est possible, ça n'arrivera jamais. Il était incrédule. L'incrédulité produit toujours des paroles négatives. Mais en proférant ces paroles négatives, et attention, il y a une leçon spirituelle, le serviteur du roi s'est infligé un jugement à lui-même. Il aurait pu bénéficier des promesses qui étaient là, mais étant incrédule, il s'en est exclu. Donc, il s'est lui-même lié par ses paroles. Et effectivement, le lendemain, quand le peuple est sorti, lui qui était, il était à la porte de Samarie, il a été écrasé contre la porte. Il n'a pas pu bénéficier de cette abondance parce qu'il est mort écrasé. parce qu'il avait été incrédule. L'incrédulité, ça produit ce type de mort, c'est une mort spirituelle. Jésus le dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », donc la foi vient en premier, « mais celui qui ne croira pas ou celui qui sera incrédule, eh bien, il sera condamné. » Ça, c'est les deux chemins que Jésus montre. Il y a deux chemins possibles. Soit le chemin de la foi, l'obéissance à Dieu, ça produit la bénédiction, soit le chemin de l'incrédulité, tu ne croiras pas, eh bien, ça produit la mort spirituelle. Mais il y a un prix à payer pour rester sur le petit chemin, c'est-à-dire le chemin étroit et resserré qui mène au ciel, c'est celui-là qu'il nous faut, et c'est le prix de la consécration et de l'obéissance. Quatrième conséquence, l'incrédulité, ça va apporter la malédiction dans votre famille. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, là il parle au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voyez ici, la foi va introduire la bénédiction dans cette famille. Ce geôlier va être sauvé, mais il lui dit « Crois au Seigneur. » D'abord, il faut que tu crois. Si tu crois, tu seras sauvé. Il fallait qu'il croie. Que se serait-il passé si ce geôlier n'avait pas cru, s'il avait fait le choix de ne pas croire? Bien, la Bible dit qu'il était sur le point de se suicider. Il était sur le point de se suicider. Et le suicide, c'est quelque chose de terrible, même en France. Aujourd'hui, en France, on est étonné, mais la France, c'est un des taux de suicide les plus élevés dans les pays d'Europe. Pourtant, les pays riches, les pays civilisés qui ont tout, certains conforts, 28 personnes se donnent la mort chaque jour en France, rien qu'en France. C'est énorme, c'est plus que toutes les heures. Le désespoir, que le Seigneur nous aide à témoigner cet amour, le répandre autour de nous, parce que là, il y a eu un homme, c'est Paul, il y aurait eu un suicide de plus ici, mais Paul a semé une parole d'espoir. Et nous, notre rôle, c'est de semer ces paroles d'espoir pour que Dieu permette que cela ouvre les yeux, parce que cet homme, il a ouvert les yeux, il aurait pu se tuer, mais il a cru, il a reçu les apôtres, il a lavé leurs plaies, il a reçu l'évangile, et il a été sauvé, lui et toute sa famille. On voit que la bénédiction est entrée dans sa famille. Mais imaginez qu'il soit resté dans l'incrédulité, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait suicidé, sa famille, ils avaient pu le père, et les enfants auraient été vendus comme esclaves, enfin, c'était une malédiction qui serait rentrée sur cette famille s'il était resté dans l'incrédulité. Cet homme a laissé l'évangile entrer dans sa vie, sa famille a été bénie. Je termine avec comment faire pour sortir de l'incrédulité finalement. D'abord, la première chose, c'est de reconnaître notre incrédulité devant Dieu, de demander pardon pour cela. Reconnaître parce qu'il faut en avoir conscience et de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai du mal à croire. Et c'est ce que fait cet homme qui vient pour son fils possédé en disant au Seigneur Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il y avait encore cette racine d'incrédulité qui était là et il le confesse, il le dit au Seigneur Jésus, et ça c'est bien, il ne cache pas sa difficulté, mais c'est un péché dont il faut avoir conscience. Ensuite, il va demander pardon. Donc, si vous demandez pardon, c'est indispensable pour être purifié, pour être libéré de tout mauvais sentiment, toute incrédulité, tout doute qui était déjà une semence de l'ennemi pour nous égarer. Et puis enfin, reprendre le chemin de la foi, puisque Jacques dit, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. C'est cette prière-là qu'il nous faut, ce n'est pas la prière de l'incrédulité, elle ne produit rien, mais c'est la prière de la foi. Retrouver le chemin de la foi, de la confiance en Dieu, la prière de la foi qui ouvre les portes de la bénédiction. Si nous restons dans l'incrédulité, voyez, c'est la souffrance, c'est l'insatisfaction. On va conclure. Ici, on a vu que l'incrédulité atteint tout le monde un jour ou l'autre. Il nous faut être vigilants, il nous faut réagir. Nous sommes encore de chair, on n'est pas encore dans notre corps glorifié. Quand on sera dans l'éternité, il n'y aura plus ces soucis. Mais sur terre, même un chrétien, il peut flancher dans l'incrédulité, commencer à douter. Là, il faut réagir. Parce que s'il ne réagit pas, ce doute va grandir. L'incrédulité va s'enraciner et il va finir par lâcher la main du Seigneur. Alors, nous devons constamment veiller et prier. Nous devons combattre l'adversaire avec la foi, nous confier dans la parole de Dieu. et puis remettre toute notre vie entre les mains du Seigneur. On va prier quelques instants le Seigneur pour qu'il nous aide, pour qu'il nous montre comment vaincre l'incrédulité, pour ne pas être de ceux qui ont rejeté, qui ont été sur le côté, qui n'ont pas cru et qui sont passés à côté de bien des bénédictions. Merci encore pour ta présence, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi dans la foi maintenant pour, Seigneur, être remplis de ta présence face aux défis, face aux impossibilités qui sont là devant nous, face aux difficultés qui surviennent constamment, Seigneur. Nous voulons davantage croire ta parole, davantage croire, Seigneur, que tu as des promesses, des certitudes pour nos vies, que toutes ces paroles de doute, ces paroles d'incrédulité qui sont semées par le malin et dont nous ne voulons pas laisser l'accès à notre cœur. Oui, Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui a laissé le chemin du doute ou laissé l'incrédulité envahir son âme, afin qu'il puisse faire demi-tour et venir dans le chemin de la foi, de la confiance parfaite et totale dans tes promesses, dans ta parole. Viens encourager les cœurs ce matin, peut-être affermis, Seigneur, les promesses que tu as données. Seigneur, oui, nous voulons nous rappeler que tes promesses s'accompliront à leur temps, mais nous voulons rester fermes et fidèles. C'est toi qui ouvriras le chemin, c'est toi qui fais le miracle, mais nous voulons nous attendre à toi seul, Jésus. Nous chassons toute pensée de l'adversaire, toute pensée de doute sur les promesses. Peut-être que Dieu vous a fait une promesse et vous ne voyez toujours rien s'accomplir. Eh bien, nous voulons chasser cette pensée de doute, cette pensée d'incrédulité et repasser dans nos cœurs toutes les promesses de Dieu comme des promesses certaines, puisque c'est la parole de Dieu. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.